France Inter.
Ce soir, eh bien, moi, je vais vous donner des nouvelles de l'enfer. Ben, ouais, très sympathique enfer. Tout le monde y a bien rôti, ça c'est indiscutable, mais on en est tous sortis vivants, et même, si j'ose dire, plus vivants qu'avant. Et oui, France Inter et moi-même, nous étions au Hellfest ce week-end, et on a capté pas mal de musique. Et on va en écouter quelques extraits, vous n'allez pas être déçus du voyage.
Thank you.
capté vendredi dernier en début de soirée sur l'une des deux grandes scènes du Hellfest de Clisson, alors que la touffeur était encore à son comble, le groupe australien Airborne. On vient de l'entendre dans un titre récent, Gutsy, un adjectif qui sert à désigner en anglais quelqu'un d'audacieux, hein, qui a du cran. Un titre récent, oui, c'est vrai, mais enfin, il ressemble fortement à tous ceux que Airborne a enregistrés depuis ses débuts, il y a près de 20 ans déjà. Oui, dans la seconde moitié des années 2000, c'était déjà un son rétro ou vintage, hein, si vous préférez. On a dit 100 fois, et sans doute même davantage, des fondateurs du groupe Airborne, les deux frères O'Keefe, Joel, le chanteur et guitariste, et Ryan, le batteur, qu'ils étaient les héritiers directs des frères Young, les fondateurs d'un des groupes les plus célèbres de l'histoire du rock, bien sûr, AC/DC ou ACDC, si vous préférez, australiens comme eux, bien sûr. Alors, les frères Young ont une ascendance écossaise, les frères O'Keefe, eux, c'est plutôt l'Irlande. En tout cas, ils sont dotés d'un talent comparable, celui d'exalter le blues et le rock'n'roll dans leur expression la plus rudimentaire, afin de les charger d'une joie de vivre explosive qui fait toujours un bien fou. Alors au Hellfest, on a vu Joel O'Keefe, armé d'une de ses deux guitares Gibson customisées, juché sur les épaules d'un membre de son équipe. On l'a vu descendre ainsi parmi les premiers rangs et jouer au milieu de la foule, en long et en large, torse nu et jeans noirs déchirés, hein, c'est son uniforme de scène. L'image projeté sur les grands écrans, a suscité un unanime cri de joie collective. Alors Airborne, c'est un des 180 groupes, et oui, qui se sont produits au Hellfest, qui s'est tenu donc le week-end dernier sur 4 jours. Alors plus qu'un festival, c'est une sorte de ville éphémère, un périmètre où les 60 à 70 000 spectateurs présents chaque jour évoluent. Alors il y a deux scènes principales, côte à côte, ce qui permet que les concerts s'enchaînent très rapidement, selon des horaires réglés un peu comme ceux de la SNCF, enfin quand ça marche bien. Et c'est pas tout, il y a 4 autres scènes réparties sur tout le périmètre qui permettent de découvrir d'autres groupes ou publics plus spécialisés, parce qu'il y a, comme dans toutes les musiques, mais surtout dans le métal, plein de niches, voire de micro-niches. Alors il faut souligner un point qui me paraît important, l'organisation du Hellfest est aux petits soins avec tout le monde. Des espèces de lances à incendie arrosaient régulièrement la foule en plein cagnard. Les stands de nourriture sont nombreux, propres, alléchants. On se sent vraiment accueilli et très bien traité. Résultat, une ambiance extrêmement sympathique et tolérante où chacune, chacun peut venir habiller, voire déguiser comme il ou elle le veut, parfois très peu vêtu, sans susciter le moindre jugement, la moindre remarque, dans une ambiance qui est plutôt celle d'une méga kermesse. Et puis, pas un papier par terre, ça, honnêtement, j'ai rarement vu. Le succès du Hellfest, en fait, ne tient pas à la présence de telle ou telle autre tête d'affiche. Cette année, notamment, bon, c'était les Anglais de Muse. Muse, d'ailleurs, ils avaient fait le choix d'un son déconcertant, très sourd et métallique, qui en a déconcerté plus d'un. On a également entendu les Américains de Korn et Linkin Park, hein, dont la fusion rap-métal a marqué la fin des années 90. Et puis, il y a eu les vétérans allemands des Scorpions. Alors, eux, ils m'ont personnellement touché par leur simplicité et la joie de vivre qui continue à émaner de leur musique. Non, en vérité, la tête d'affiche du Hellfest, c'est le Hellfest lui-même et l'expérience qu'on y vit au sein de ce décor qui, alors on l'a dit 100 fois, pourrait être celui d'une grande production cinématographique imaginaire entre Mad Max, Blade Runner et d'autres films, mettons ceux de Tim Burton, on l'a dit et redit. Alors, il y a un autre groupe qu'on a capté et dont on n'a pas pu diffuser l'intégralité du concert au cours de l'émission spéciale Hellfest sur France Inter de samedi dernier, c'est le jeune trio 100% féminin The Warning. The Warning a été formé par 3 sœurs mexicaines qui viennent de la grande ville de Monterrey, c'est près de la frontière avec le Texas, et c'est Matt Bellamy, hein, de Muse, j'en parlais, qui était le premier à repérer le potentiel international de The Warning, qui assurait la première partie donc de Muse au Mexique. Matt Bellamy a convié les 3 sœurs à jouer en première partie de sa tournée européenne avec Muse, et d'ailleurs aux États-Unis, The Warning a d'autres admirateurs, c'est les Foo Fighters, qui les ont également fait jouer en première partie. Alors chez The Warning, il y a donc trois très jeunes femmes, il y a Daniela, Dani, au chant et à la guitare, 25 ans, et ses deux sœurs cadettes, Paulina Pau, 23 ans à la basse, et Alejandra Ale à la basse, 20 ans seulement. Et alors franchement, toutes les trois sont des starnées, je suis allé les interviewer après, elles m'ont beaucoup charmé. elles sont aussi, comment dire, aussi, elles sont aussi talentueuses que brillantes. Elles ont découvert le rock grâce à leurs parents, mais aussi grâce à un jeu vidéo, Rock Band, qui leur a donné envie de s'y mettre pour de bon. Alors que Dani n'avait que 14 ans en 2014, elles ont posté sur YouTube une version de Enter Sandman de Metallica qui a fortement impressionné James Hetfield, lui-même il l'a déclaré. Voici donc un extrait du concert qu'a donné The Warning, qui pour son premier passage au Hellfest s'est produit sur l'une des deux scènes principales. Quelque part entre Foo Fighters et Metallica, c'était les trois sœurs mexicaines Villarreal Belles du trio The Warning. The Warning a donné un concert très dynamique, très joyeux, samedi après-midi sur l'une des deux grandes scènes du Hellfest. Alors samedi dernier, comme je vous le disais, France Inter a diffusé une émission spéciale depuis le Hellfest, au cours de laquelle nous avons passé des extraits de concerts des Australiens de Airborne, vous les avez entendus en début d'émission, des jeunes Alsaciens également de Last Train, très intéressant, et aussi bien sûr de The Warning. Cela dit, il y a eu pour moi un groupe dont j'attendais beaucoup et qui a été à la hauteur de mes espérances et même au-delà, c'est le groupe de métal venu de Mongolie, The Who, ça s'écrit H-U. Alors, je commence par le commencement. La Mongolie, c'est un pays de 1,5 million de kilomètres carrés, donc c'est trois fois la superficie de la France, et il est, beaucoup le savent, situé entre deux empires, la Chine et la Russie. Mais c'est un des pays les moins densément peuplés au monde, puisque sur tout ce territoire, on ne compte qu'environ 3,5 millions d'habitants. Il y a des steppes, des montagnes, celle de l'Altaï, un vaste désert, le désert de Gobi, qui recouvre le tiers du territoire, le désert de Gobi qui a été le théâtre de légendaires chevauchées, pas toujours pacifiques. La Mongolie est un des rares pays où le mode de vie nomade, à ma connaissance, persiste et continue à l'emporter sur le mode de vie sédentaire. Alors des groupes de métal venu d'Asie, bien sûr, il y en a eu au Japon notamment, mais après l'effondrement de l'URSS, protectrice entre guillemets de la Mongolie, le régime totalitaire communiste est tombé et des groupes de rock, naguère réprimés ou interdits, ont pu apparaître au grand jour au cours de ces 30-35 dernières années. Mais aucun avant The Who n'a eu véritablement d'impact international. Avec The Who, tout a changé. Alors The Who, c'est quatre musiciens issus du conservatoire de Oulan-Bator qu'a réuni un certain Dashka, un producteur de musique visionnaire. Ils se sont donc lancés ainsi en 2016. Alors leur musique est une fusion de musique traditionnelle mongole et occidentale, incluant folk, blues et bien sûr la part la plus importante, metal. Une fusion extrêmement naturelle, vous allez vous en rendre compte. Gala, le chanteur de The Who, c'est la racine du mot humain en mongol, a appris à maîtriser la technique vocale dite du humei, c'est un chant guttural qui permet d'émettre deux et même parfois trois sons à la fois. Avec son camarade Enkush, Gala est un virtuose d'un instrument qui s'appelle le morinhur, c'est une sorte de vielle à deux cordes très étirée dont le manche est couronné d'une tête de cheval, cet instrument que l'un et l'autre attaquent à l'archet, un archet fait de crin de cheval, et il l'attaque dans des attitudes de guitare héros. Et amplifié, vous allez l'entendre, le morinhur sonne comme un mélange de violon et de guitare électrique, et c'est électrisant. The Who, c'est aussi Temka, qui joue du tufshur, c'est une guitare mongole à trois cordes, évidemment amplifiée, et il y a aussi Jaya, qui fait vibrer sa guimbarde. Depuis qu'une de ses vidéos est devenue virale en 2019, The Who est sollicité de toutes parts. Le groupe a récemment tourné aux États-Unis en première partie du groupe de vétérans anglais Iron Maiden, dont il reprend sur scène le titre The Trooper. On l'a d'ailleurs entendu dans l'émission de samedi. The Who a également, vu son succès mondial, était nommé ambassadeur de paix par l'UNESCO, et sur scène, les quatre musiciens se présentent de front en costume traditionnel dans les attitudes martiales propres au groupe de métal. Gala et ses copains ressemblent en fait à des lutteurs qui se seraient fait la tête de Attila ou de Genghis Khan. Ils sont surplombés sur scène par le buste gigantesque d'un guerrier mongol en armure. Derrière eux, quatre autres musiciens, un bassiste, un guitariste, un batteur et un percussionniste, tous chantent. Cela dit, malgré cette résonance guerrière, The Who se situe plutôt du côté spiritualiste et idéaliste du métal. Leur chanson évoque avec une espèce d'euphorie très communicative les esprits et la beauté de la nature. On est frappé d'entendre parfois des échos de musique celtique dans ce qu'ils font. La musique celtique qui, par certains aspects, se rapproche de la musique d'Extrême-Orient. Il y a eu, c'est ce que soutiennent certains musicologues jadis, de mystérieux voyages et d'étranges migrations. Une bonne partie du concert que je propose d'écouter de The Who au Hellfest, c'est ce soir sur France Inter dans Very Good Trip, et je suis prêt à parier que parmi vous, il y en a qui s'en souviendront longtemps. C'est parti. Mmh.
Bonsoir, Hellfest! We are so happy to be here! Merci beaucoup!
Mishka Asayas.
Yeah.
Capté sur la scène du Hellfest vendredi dernier, le groupe mongol The Who, la chanson qu'on vient d'entendre s'appelle The Gehreg, c'était le nom du passeport diplomatique avec lequel voyageaient les nobles mongols, enfin c'était il y a longtemps, c'était au temps du XIIIe siècle. Merci beaucoup, je tiens à les remercier pour les prises de son qu'ils ont faites. C'était Benjamin Perru, Andreas Jaffré et Alexandre Martin dans le camion à Clisson au Hellfest. Et on a un peu le temps, c'est celui d'entendre un tout dernier titre interprété par The Who.
Thank you.
Joe!
Un solo virevoltant de Maureen Hoare, c'est la vielle à deux cordes amplifiée, un instrument traditionnel en Mongolie, joué à l'archet par le guitar héros Gala. Il y a aussi son camarade Teshku, qui étaient donc les deux solistes de The Who, qu'on vient d'entendre conclure ce récital inoubliable qu'ils ont donné au Hellfest avec Rumble of Thunder, le grondement du tonnerre. Alors, je tiens à vous dire qu'il y a une seule possibilité, si vous résidez en France, qui est très plausible puisque vous écoutez cette émission. Si vous êtes dans l'Est, du côté de Saint-Avold ou de Forbach, eh bien sachez que le 12 juillet, il y a un festival à Sarrebruck. Franchement, c'est pas très long, quoi. Et vous pourrez entendre The Who. Donc, c'est le 12 juillet, c'est la seule possibilité. Sinon, ils sont dans divers festivals en Europe centrale, en Europe du Nord, mais c'est très loin de chez nous. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je remercie très chaleureusement Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission ce soir. C'était Sofiane Aktib à la technique. Et je remercie également, Sébastien Lorieux ce soir, ainsi que Romain Couturier. Demain et après-demain, des émissions spéciales consacrées à l'histoire de Oasis. C'était enregistré en public.